Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le gouvernement renforce le contrôle des chômeurs. L'échelle des sanctions a été revue et les demandeurs d'emploi devront se soumettre à un suivi numérique. Dans ce journal, les explications de Bénédicte Robin et le commentaire de notre invité Stéphanie Delestre qui dirige la plateforme de recrutement Capa.fr. Bruxelles et Londres trouvent un accord pour l'après-Brexit. Le texte prévoit une période de transition pendant laquelle le Royaume-Uni devra remplir un certain nombre d'engagements financiers. Nous ferons le point avec Pierre Benazé. 76,6%, c'est le score obtenu par Vladimir Poutine. Réélu hier pour un quatrième mandat, les Occidentaux ne se sont pas précipités pour féliciter le président russe. Claude Bruyot nous appellera de Moscou. C'était une promesse du candidat Macron et le gouvernement est passé à l'action en annonçant aujourd'hui aux partenaires sociaux de nouvelles mesures pour renforcer le contrôle des chômeurs. En résumé, l'échelle des sanctions a été modifiée et les demandeurs d'emploi feront l'objet d'un suivi numérique. Par ailleurs, le gouvernement veut proposer une nouvelle définition de l'offre raisonnable d'emploi qu'un chômeur ne saurait refuser. Bénédicte Robin, ces mesures n'ont pas vraiment convaincu les syndicats.
Il y aura du contrôle, il y aura des sanctions, mais où sera l'accompagnement? C'est un peu la question sans réponse pour les syndicats.
Le gouvernement n'a pas renoncé à la logique de sanctions contre les chômeurs. Il durcit les sanctions contre les chômeurs.
Denis Gravouille est le responsable des questions d'assurance chômage à la CGT.
Il y a un petit allègement sur une sanction quand on refuse une formation, mais par contre, tout le reste est durci. On passe de 15 jours à 1 mois pour le premier manquement, puis 2 mois, puis 3 mois, puis 4 mois, puis des radiations complètes. Et surtout, Pôle emploi va être celui qui décide, va être jugé parti, va décider des radiations, alors que jusqu'à présent, ça relève du ministère du Travail, de la Directe. Cette étape-là est supprimée.
Le nombre d'agents Pôle emploi dédiés au contrôle des chômeurs sera lui multiplié par 5, passant de 200 à 1000 en 2020. Contrôle sans doute aussi facilité par le carnet de bord numérique, un nouvel outil où le demandeur d'emploi devra noter toutes ses démarches. Ce carnet sera expérimenté dans 2 régions, on ne sait pas encore lesquelles, dès l'an prochain. Enfin, le gouvernement veut revoir la définition de l'offre raisonnable d'emploi, aujourd'hui définie dans le Code du Travail. Elle sera personnalisée, mais cela pourrait entraîner des inégalités, estime Michel Bogas, secrétaire force ouvrière.
C'est-à-dire qu'il y aura un contrat entre le demandeur d'emploi et son conseiller Pôle emploi. Ils définiront ensemble si c'est 85% de l'ancien salaire, si c'est à 30 km. Et une fois que ce document sera signé, en fait, le demandeur d'emploi sera obligé d'accepter tous les emplois qui rentrent dans ce contrat, avec un risque, effectivement, d'une rupture d'égalité selon les territoires.
Toutes ces mesures seront intégrées au projet de loi qui leur sera envoyé la semaine prochaine et présenté en Conseil des ministres au mois d'avril.
Bénédicte Robin, merci. Invitée de ce journal, Stéphanie Delestre, directrice et fondatrice de la plateforme de recrutement Capa.fr, qui revendique 4,5 millions d'inscrits. Bonsoir.
Bonsoir.
Stéphanie Delestre, est-ce que vous êtes favorable à cette nouvelle échelle de sanctions pour les demandeurs d'emploi ?
Alors écoutez, favorable ou pas, ce n'est pas à moi de le dire, mais en revanche, ce qu'on constate, c'est qu'on s'attendait à des mesures qui seraient beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus dures. Or là, les mesures restent très raisonnables et ce qu'on peut en retirer, c'est que finalement, il y a moins de sanctions que prévu, il y a moins de sanctions que attendues et au contraire, on ressent plus une avancée vers la responsabilisation de la personne en recherche d'emploi, qui va via ce carnet de bord numérique, indiquer quelles sont les actions qu'elles mettent en œuvre pour retrouver un emploi.
Mais il y a encore trop de sanctions pour les syndicats, apparemment.
Alors, il y a trop de sanctions pour les syndicats, mais en revanche, c'est vrai qu'on est un petit peu en ce moment dans une espèce de confrontation la mesure que je te mets, voilà ce que je dis, etc. Parce que là, bien, on est dans une lutte des pouvoirs. Mais du point de vue des demandeurs d'emploi, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le marché de l'emploi repart. C'est qu'il y a énormément d'offres d'emploi qui sont disponibles aujourd'hui dans tous les secteurs, partout en France et pour tous les profils, pas seulement pour les cadres, mais y compris pour les personnes non cadres et les personnes peu ou pas qualifiées. Et ces personnes aujourd'hui, ce qu'elles attendent effectivement plus que des sanctions, c'est avant tout un meilleur accompagnement pour trouver un emploi plus rapidement qui leur correspond vraiment.
Mais pour vous, c'est une bonne chose la mise en place de ce suivi numérique du chômeur ?
Alors, ça peut être une bonne chose, mais encore une fois, un suivi numérique qui ne serait pas partagé par Pôle emploi avec les autres acteurs du marché de l'emploi, c'est quelque chose qui finalement a priori, ne va pas servir à grand-chose. Les acteurs, aujourd'hui, tous les acteurs de l'emploi, il n'y a pas seulement Pôle emploi, mais il y a énormément de sociétés privées en France qui font un énorme travail pour accompagner les personnes en recherche d'emploi à trouver un emploi. Et ce que tous ces organismes et ces sociétés demandent aujourd'hui à Pôle emploi, c'est pas forcément la mise en place de ce carnet de bord, mais c'est au contraire le partage des fichiers des personnes en recherche d'emploi pour avoir ces fichiers-là, des fichiers qui, bien évidemment, avec l'autorisation des personnes en recherche d'emploi, pour les accompagner. Ce suivi de bord numérique, finalement, il existe déjà. Hein. Il existe déjà puisqu'aujourd'hui, les personnes en recherche d'emploi doivent chaque mois indiquer où elles en sont dans leur process d'emploi, si elles ont retrouvé un emploi ou pas. Donc, d'une certaine façon, ça existe déjà. Et ce qu'on va quand même retenir de toutes ces mesures, c'est quand même la difficulté de mise en œuvre. Encore une fois, beaucoup d'agitation pour pas grand-chose, parce que effectivement, dans le reportage, eh bien, il est indiqué que les effectifs de contrôle vont être multipliés par 5, mais aujourd'hui, on parle de 200 personnes qui vont peut-être passer à 1000 contrôleurs, mais il faut rappeler qu'il y a plus de 5 millions de chômeurs en France. Donc, vous voyez, ça reste extrêmement limité. Et puis, ce suivi numérique, on en parle pour 2019, peut-être 2020. Donc, encore une fois, beaucoup d'agitation pour finalement des mesures qui vont pas changer grand-chose, parce que comme le rappelait une des personnes interviewées, eh bien il y a aussi un allègement quand même des sanctions au début de la recherche d'emploi, et au contraire qui va dans le sens de dire aux personnes en recherche d'emploi, regardez, on allège les sanctions au début parce que c'est vrai que c'est compliqué de se mettre dans une recherche d'emploi. Ça prend du temps et on les allège pour vous montrer qu'on est à vos côtés et qu'au contraire, on va faire ce chemin-là ensemble.
Stéphanie Delestre, il y a aussi cette notion d'offre raisonnable d'emploi qu'un chômeur ne peut refuser plus d'une fois sous peine d'être radié. Vous, comment est-ce que vous définiriez cette notion d'offre raisonnable d'emploi ?
Alors, nous, on la définit pas, mais en fait, les personnes qui les définissent le mieux, c'est les personnes elles-mêmes en recherche d'emploi. Et ce que souvent les personnes indiquent, c'est d'abord un métier équivalent, parce qu'on nous parle beaucoup de mobilité, on utilise des grands mots, mais dans la réalité, l'emploi en France reste majoritairement non cadre. Et aujourd'hui, les personnes qui souffrent le plus sur le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est principalement les personnes peu ou pas qualifiées. Et ce sont elles qui en parlent le mieux. Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles indiquent ? Elles disent que finalement, une offre raisonnable, c'est une offre qui correspond au métier qu'elles savent exercer. Donc, par exemple, je suis boulanger, eh bien, j'ai besoin d'une offre d'emploi de boulanger. Je suis jardinier, j'ai besoin d'une offre de jardinier. Je suis soudeur, j'ai besoin d'une offre de soudeur. Ça, c'est très important. Deuxièmement, il y a un vaste champ des compétences et des habilitations. Et là aussi, eh bien, il faut que ce soit en adéquation. Et puis, il y a un élément dont on oublie souvent de parler, c'est la distance. Aujourd'hui, il faut savoir que ça coûte très très cher, la mobilité, qu'une personne en recherche d'emploi ne peut pas faire 50 ou 100 km par jour parce que souvent, elle n'est pas véhiculée. Donc, pour les personnes, la grosse part des personnes qui sont en recherche d'emploi aujourd'hui, une offre raisonnable, c'est une offre d'un métier que j'ai déjà exercé et qui est à côté de chez moi. Voilà les deux critères qui ressortent majoritairement.
Merci Stéphanie Delestre, directrice et fondatrice de la plateforme de recrutement Capa.fr. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Il y a 6 ans, jour pour jour, Mohamed Merah commettait le dernier de ses crimes, la tuerie de l'école juive aux Aratora à Toulouse. Le djihadiste avait assassiné froidement un père de famille et ses 2 enfants en bas âge, ainsi qu'une fillette de 7 ans. Environ 200 personnes ont commémoré la tragédie aujourd'hui dans l'enceinte de l'école, qui s'appelle désormais Or Torah. Et 6 ans après, de nombreux juifs toulousains déplorent la persistance d'un antisémitisme virulent en France. Le reportage de Frédéric Bourgade.
Devant l'école Or Torah, 4 militaires en armes assurent la sécurité. Leur surveillance est quotidienne depuis les meurtres d'il y a 6 ans. Les parents d'élèves déposent leurs enfants en auto directement devant le portail, d'où une caméra filme la rue. Jacques est un fidèle de la synagogue de l'école. Pour lui, il y a aujourd'hui encore des raisons de s'inquiéter. Explication.
On a toujours le sentiment que la communauté juive de France, de Toulouse, est menacée. Il n'y a aucun contrôle sur ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de messages haineux, antisémites, antisionistes. On fait l'amalgame entre Israël et les Juifs de France. Ce qui nous arrive va arriver à la France entière. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec Charlie, avec Nice, avec le Bataclan. Il faut que Le gouvernement arrête de parler et commence à agir.
Le procès du frère du terroriste Mohamed Merah n'a pas non plus apaisé la douleur de Johanna, maman d'un écolier.
Si un terroriste n'est pas assez condamné, c'est la porte ouverte à d'autres actes de terrorisme. La répression, elle est sans doute pas assez à la mesure de l'horreur. Il y a la justice humaine et puis il y a la justice du ciel.
Cette journée particulière se vit de manière intime pour les élèves et les parents, loin des médias.
Frédéric Bourgade, c'est dans ce contexte inquiétant que le gouvernement a présenté ce matin un nouveau plan contre le racisme et l'antisémitisme. Édouard Philippe met l'accent sur la lutte contre la cyberhaine. Le Premier ministre veut infliger de lourdes amendes aux réseaux sociaux qui tarderaient à retirer de leur plateforme des propos haineux. Amendes qui pourraient aller jusqu'à 50 millions d'euros. C'est une nouvelle étape sur le très long chemin du Brexit. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé un accord ce matin sur la mise en place d'une période de transition après le retrait britannique dans un an. Période de 21 mois pendant laquelle Londres devra remplir un certain nombre d'obligations. À noter que l'accord conclu à Bruxelles ne résout pas la question de l'Irlande du Nord. Les explications de Pierre Benazé.
Les deux points principaux de l'accord de ce matin permettront d'une part de résoudre la question des engagements financiers que le Royaume-Uni devra honorer pour acter sa sortie définitive des budgets européens, et d'autre part les garanties à long terme pour les droits dont bénéficieront les citoyens qui continueront à résider de l'un ou de l'autre côté. Il y a aussi un accord sur les dates de la période de transition demandée par le gouvernement britannique pour assurer une sortie en douceur. Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne.
Pendant cette période, le Royaume-Uni ne participera plus au processus de décision de l'Union européenne, simplement parce qu'il ne sera plus un État membre le 30 mars 2019. Il conservera néanmoins tous les avantages et les bénéfices du marché unique, de l'union douanière et des politiques européennes, et devra donc aussi respecter toutes les règles européennes au même titre que les États membres.
Pendant cette période de transition, Européens et Britanniques devront finaliser les termes de leurs futures relations. Elles devraient prendre la forme d'un simple accord de libre-échange comme celui avec le Canada. Pour l'Irlande du Nord, si aucune solution nouvelle n'est trouvée, cette partie du Royaume-Uni pourrait rester dans le marché unique européen et l'union douanière. Tous ces points devront encore être validés vendredi lors du sommet européen à venir.
Pierre Benazé à Bruxelles. Et pendant que l'Union européenne s'interroge sur son avenir dans le sang, le Royaume-Uni, la Russie célèbre son homme fort. Vladimir Poutine a été réélu triomphalement hier pour un quatrième mandat de président. Il a obtenu 76,7% des suffrages avec une participation en hausse par rapport à 2012. L'opposition russe et les ONG dénoncent des irrégularités dans le scrutin. Quant aux Occidentaux, ils ont accueilli fraîchement cette réélection annoncée. L'affaire de l'ex-espion Skripal empoisonné en Angleterre n'a pas vraiment contribué à améliorer l'image de Poutine. Claude Bruyot nous appelle de Moscou.
Vladimir Poutine a reçu assez vite les félicitations de ses grands et petits voisins alliés réguliers, respectivement celles de Xi Jinping, le chinois, le biélorusse Loukachenko, l'azéri Aliyev et le khazar Nazarbayev. Des démarches sans restriction et spontanées qui contrastent avec les premières manifestations occidentales. Dans un registre complémentaire, la France et l'Allemagne ont donc marqué leur volonté de dialogue constructif mais sans concession. Les sites officiels des grands médias fédéraux ne commandent pas au-delà ces positionnements plus en retrait. Le quotidien commercial lui retient toutefois davantage l'approche d'Angela Merkel qui conditionne un possible soutien économique à la Russie à l'amélioration des relations diplomatiques avec les Occidentaux. La crise avec la Grande-Bretagne est encore beaucoup trop présente sur le terrain diplomatique pour que le Kremlin ait élaboré une quelconque stratégie de normalisation à la faveur de l'élection attendue de Vladimir Poutine.
Claude Bruyot, correspondant de Radio France en Russie. Une affaire gênante pour la diplomatie française, un employé du consulat général de France à Jérusalem a été inculpé pour trafic d'armes par la justice israélienne. Il a été maintenu en détention. Romain Franck, un contractuel travaillant comme chauffeur pour le consulat, est accusé d'avoir transporté des dizaines d'armes de la bande de Gaza vers la Cisjordanie. Il aurait utilisé ses privilèges diplomatiques pour mener à bien son trafic dans une voiture du consulat. Romain Franck est soupçonné d'avoir travaillé pour le compte d'un réseau de trafiquants palestiniens. On termine ce journal avec la météo demain et l'hiver qui se maintient sur la France. 9 départements sont en vigilance orange, neige et verglas. La zone concernée est située en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Ailleurs, le ciel sera variable avec de belles périodes ensoleillées. Les températures minimales, encore des gelées dans l'est de moins 2 à moins 5 degrés. Les maximales iront de 3 à 13 degrés du nord-est vers la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.